SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Radio SBS. Il est 13h avec vous Christophe Mallet et Jean-Noël Ducasse pour une heure en français. Au programme de ce jeudi 6 juin, le journal, les sports et ce focus sur le jour J du 6 juin 1944 du débarquement, jour du débarquement en Normandie il y a 80 ans. Et nous irons dans nos archives avec les témoignages des soldats de l'époque. Mais tout d'abord, on passe au journal. À la une de l'actualité de ce jeudi 6 juin, des vétérans et des dirigeants mondiaux se réuniront ce jeudi pour célébrer les 80 ans d'une journée qui a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Le trésorier fédéral Jim Chalmers affirme que le faible taux de croissance économique est une source d'inquiétude pour le gouvernement, mais a évité de parler d'une éventuelle récession. Le président américain Joe Biden a mis en œuvre sa politique frontalière la plus restrictive de son mandat, empêchant les migrants de demander l'asile à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, jusqu'à ce que les tentatives de traversée diminuent.
Ici Londres. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone.
Voilà, des vétérans et des dirigeants mondiaux se réuniront ce jeudi 6 juin pour célébrer le 80e anniversaire d'une journée qui a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Des événements se dérouleront en Grande-Bretagne et en France pour commémorer le débarquement des forces alliées en Normandie. Le roi Charles et la reine Camilla ont rejoint les vétérans à Portsmouth hier, l'un des principaux points de départ du débarquement en Normandie en juin 1944. Le roi a rendu hommage à ceux qui ont participé au débarquement, les félicitant d'avoir, je cite, « remplacé la tyrannie par la liberté ». Environ 3200 soldats australiens ont participé au débarquement en France le 6 juin 1944. Au moins 14 Australiens ont été tués le jour J et des centaines d'autres au cours de la campagne suivante. Les commémorations ont commencé hier, comme nous l'explique Valentin Hugues pour RFI.
Le bruit des vagues sur la plage de Sword où les Britanniques ont débarqué, et puis celui de la cornemuse. Un son particulièrement émouvant pour Capucine.
Ça évoque ce qui s'est passé là, et grâce à eux, on est libre, quoi, et ça, c'est hyper important.
Et qu'est-ce qu'on ressent quand on l'entend ?
Eh ben, on est hyper ému et qu'on a la petite larmichette qui arrive, quoi.
Ému par ces 200 Pipers, ces joueurs de cornemuse, tous en kilt, comme Nicolas.
Au pied, Gilly Brooks. Le couteau dans la chaussette, c'est un skingdo. Le kilt. Et là, sous le bras gauche, la cornemuse.
La même tenue que portait Bill Millin 80 ans plus tôt. Darren vient du sud de l'Angleterre.
I am the bass drummer. So basically hold the beat of the band.
Il a un gros tambour accroché aux épaules.
I do fear for that, yeah. But I think the people in Normandy, you know, they've really made something of it and I don't think they will forget. It can get quite emotional really, so yeah. I'll just try and keep the beat and do my best for the band.
Ces Pipers viennent de plusieurs pays, des Anglais, Suisses, Français, Américains. Franck, lui, est allemand.
For us, it's a very community atmosphere, a sign of peace and a signal of community and come together.
Et à la fin de leur marche, tous ces Pipers se placent autour de la statue de Bill Mullin et jouent en son honneur.
En Australie, le trésorier fédéral Jim Chalmers affirme que le faible taux de croissance économique est une source d'inquiétude pour le gouvernement, mais a évité de parler d'une éventuelle récession. Le Bureau australien des statistiques a révélé que l'économie n'avait progressé que de 0,1% au premier trimestre de 2024. Cela survient alors que la Reserve Bank s'apprête à décider d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion du conseil d'administration. Jim Chalmers affirme que le gouvernement reconnaît les signes inquiétants montrés par les derniers chiffres.
We didn't need the national accounts to tell us that people are under the pump, but that was very clear in the national accounts, whether it's the household savings ratio, the longer term weakness in consumption, the focus on essentials, the fact that mortgages are eating up a bigger proportion of people's household budget. All of that tells us what we already knew, which is people are under the pump. That's why the budget strategy is so important in the context of an economy which is barely growing and people who are under pressure.
Le gouvernement fédéral a fait marche arrière sur ses déclarations selon lesquelles les résidents permanents de n'importe quel pays pourront rejoindre les forces de défense australiennes à partir de janvier prochain. Mardi, le ministre du personnel de la Défense, Matt Keogh, avait déclaré que toute personne ayant été résident permanent pendant 12 mois et ayant passé les contrôles de sécurité serait éligible à rejoindre les forces armées. Le chef de l'opposition, Peter Dutton, a critiqué cette annonce, affirmant qu'il fallait clarifier davantage les pays qui seront éligibles. Le ministre de la Défense, Richard Marles, a déclaré sur l'ABC que seuls certains pays seraient éligibles.
From the 1st of July, we will be opening up entry into the Australian Defence Force for New Zealand citizens who have been permanent residents for a year. And then from the 1st of January, that will be extended to Five Eyes countries. That's the decision that we've taken. But we do have an eye beyond that to the Pacific, really.
Une audition sur les estimations budgétaires a révélé qu'environ 5% des dépenses du NDIS, soit environ 2 milliards de dollars, ne sont pas consacrées à des besoins réels. Le chef de la National Disability Insurance Agency, John Dardo, a raconté lors de l'audition des cas où des prestataires du NDIS auraient forcé des participants à leur donner de l'argent pour des médicaments et les auraient encouragés à commettre des fraudes. Le coût du NDIS devrait atteindre les 50 milliards de dollars au cours de l'année 2025-2026. La chef adjointe de l'opposition fédérale, Susan Lee, affirme que le ministre Bill Shorten n'est pas à la hauteur de la tâche.
We cannot have the NDIS used as money for drugs or mortgages or alcohol or spending of taxpayers' money on things that taxpayers would deem ridiculous or unnecessary. We have to have an NDIS that is there to protect the people who need it. We strongly believe in an NDIS that is there for the people who desperately need it.
Le ministre Bill Shorten, quant à lui, estime qu'il faudra un certain temps pour assainir le système et que le processus avance sans problème. Bill Shorten affirme que le gouvernement est déterminé à localiser ceux qui ont mal géré les fonds publics.
I think the next 2 to 3 years, we will see significant improvement, but we're seeing improvements right now. I'll give you 4 facts. One, there's now 500 and north of 500 compliance investigations underway. There's 220 specific investigations, which are more serious, underway. There's 20 prosecutions in the courts, and there's another 12 sitting with the directors of public prosecutions to proceed with.
La gouverneure de la Banque centrale australienne, Michelle Bullock, a déclaré que l'économie était très faible, mais qu'elle ne répondait pas aux critères de la stagflation. Dans les années 70, les économies du monde entier ont connu une période connue sous le nom de stagflation, où la croissance était faible et l'inflation était supérieure à la moyenne. Madame Bullock affirme que le marché du travail australien est assez solide et exclut la stagflation.
You know, stagflation, typically you'd think of as a situation where you've got very high inflation. Inflation's high, but it's come down from 8%, 7.8%. So, yes, it's higher than we're targeting at the moment, but we're still getting growth in employment. And as I said, we've got weak growth, but we judge that demand is still a bit above the ability of the capacity of the economy to supply that. So that, for me, doesn't describe stagflation.
Le directeur général de News Corp, Michael Miller, a appelé le gouvernement fédéral à imposer des règles plus strictes aux entreprises de médias sociaux. S'exprimant devant la National Press Club hier, Michael Miller a déclaré que les plateformes de médias sociaux sont responsables de l'impact négatif qu'elles ont sur la vie des jeunes Australiens en promouvant des stéréotypes de style de vie néfaste. Il a également déclaré que les délinquants utilisent la forme non réglementée des médias sociaux pour commettre des violations qui portent préjudice à autrui. On l'écoute.
These tech giants, especially the social media networks such as Meta, TikTok and X, operate outside our legal system. We know the collective damage they cause to our young and elderly, businesses, big and small, to our democracy and to our economy. How long is Australia going to allow them to operate as protected species? It's been long enough, and this address is about what we can do about it. It's time.
Le président américain Joe Biden a mis en œuvre sa politique frontalière la plus restrictive de son mandat, empêchant les migrants de demander l'asile à la frontière entre les États-Unis et le Mexique jusqu'à ce que les tentatives de traverser diminuent. L'interdiction controversée de l'asile permet aux autorités d'expulser ou de renvoyer rapidement au Mexique les migrants qui traversent illégalement la frontière sans avoir la possibilité de demander l'asile, mais elle n'entre en vigueur que lorsque les arrestations de migrants dépassent 2500 par jour pendant une semaine. Joe Biden a déclaré qu'il y aura des exceptions pour les enfants non accompagnés, les personnes confrontées à de graves menaces médicales ou de sécurité et les victimes de la traite.
I will never demonize immigrants. I'll never refer to immigrants as poisoning the blood of a country. And further, I'll never separate children from their families at the border. I will not ban people from this country because of their religious beliefs. I will not use the U.S. military to go into neighborhoods all across the country to pull millions of people out of their homes and away from their families to put detention camps in a way, while awaiting deportation, as my predecessor says he will do if he occupies his office again.
Selon les Nations Unies, plus de 500 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis le 7 octobre, dont près d'un quart étaient des enfants. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que la grande majorité d'entre eux ont été tués par l'armée israélienne et 10 autres par des bandes de colons. Il a déclaré que plus de 5100 Palestiniens ont été blessés au cours de la même période et que le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU a enregistré plus de 900 attaques de colons. Ces chiffres s'ajoutent aux plus de 36 500 Palestiniens tués et aux 83 000 blessés dans la guerre d'Israël à Gaza. Stéphane Dujarric a également déclaré que des centaines de maisons en Cisjordanie ont été démolies ou confisquées sous l'occupation israélienne.
Over the past nearly 8 months in those areas, Israeli authorities have also demolished, confiscated or forced the demolition of more than 900 Palestinian structures, nearly 40% of which were inhabited homes. That forced the displacement of some 2,000 people.
Trois semaines après le début de la crise en Nouvelle-Calédonie, les vols commerciaux reprennent partiellement depuis hier mercredi. Les premiers vols concernés par la reprise du trafic sont en provenance de Tahiti et à destination de Brisbane en Australie. Une reprise partielle qui exclut pour l'instant les vols vers Paris. On passe maintenant à la météo pour ce jeudi en Australie. À Perth, de la pluie, 23 degrés. Adélaïde, nuageux, 18 degrés. Melbourne, nuageux également, 17 degrés. Hobart, nuageux, 14 degrés. Canberra, forte pluie, 14 degrés. Sydney, quelques averses, 19 degrés. Brisbane, nuageux, 22 degrés. Darwin, ensoleillé, 31 degrés. Et à Alice Springs, nuageux, maximal de 17 degrés. Et voilà, fin du journal de ce jeudi 6 juin. Et dans quelques instants, on passe au journal des sports en compagnie de notre collègue Christophe.
Journal des sports, on débute avec du tennis et Roland Garros. Les résultats donc de ces derniers jours, on connaît déjà les demi-finalistes du tableau masculin. Rudd est resté sur son canapé, il n'a pas joué contre Djokovic puisque ce dernier était forfait. On va en parler dans quelques instants puisque ça a des répercussions sur le reste de la saison. Donc Djokovic forfait, Rudd est donc en demi-finale. Les autres demi-finalistes seront Alcaraz puisque Alcaraz a battu Tsitsipas et Zverev a battu l'Australien Alex de Minaur. Retour sur ce match avec Olivier Pron.
Oui, effectivement, en 3-7, sec, 6-4, 7-6, 6-4, 2h59 minutes d'une belle bagarre quand même pour cette dernière session du soir ici à Roland-Garros. Et voilà Alexander Zverev qui rallie les demi-finales pour la quatrième fois de rang, donc à Roland-Garros. Ce sera vendredi et Alexander Zverev jouera contre Casper Ruud qui a regardé tout cela bien au chaud chez lui puisque il a bénéficié du forfait de Novak Djokovic. À Alex de Minaur quand même, qui ne deviendra pas le premier Australien depuis Pat Rafter en 97 à atteindre ce dernier carré, porte d'Auteuil. On a de belles affiches quand même.
Voilà, donc Olivier Pron sur la victoire de Zverev face à l'Australien de Minaur. Dans le tableau féminin, les demi-finalistes, on les connaît également. Andreeva a battu Sabalenka, une surprise sur le score de 6-7, 6-4, 6-4. Et elle affrontera l'Italienne, surprise, Paolini. Paolini qui a battu Rybakina sur le score de 6-2, 4-6, 6-4. L'autre demi-finale sera la Polonaise Swiatek contre l'Américaine Coco Gauff. Alors je vous le disais, l'abandon de Novak Djokovic a des répercussions. Une principale, eh bien, c'est que l'Italien Yannick Sinner sera numéro 1 mondial à partir de lundi. Les explications avec Christophe Dirambion.
Oui, le malheur de Novak Djokovic, contraint de déclarer forfait pour la suite du tournoi pour cause de blessure au genou droit, fait le bonheur du tenant du titre à l'Open d'Australie. Sa montée sur le trône sera officielle lundi. D'ici là, il espère bien aller jusqu'au bout de la quinzaine, porte d'Auteuil. Pour l'heure, il est en demi-finale après avoir écarté le Bulgare Grigor Dimitrov 6-2, 6-4, 7-6. Une belle façon de fêter l'autre grande nouvelle du jour pour lui.
Cela veut dire énormément pour moi. Évidemment, ce n'est pas la manière que l'on attendait. Voir Novak se retirer, c'est dur pour lui et pour le tournoi. Mais je suis vraiment content de cet accomplissement. C'est le résultat de beaucoup de travail au quotidien, de routine. Je suis ravi d'atteindre ce rang de numéro 1. Mais vous savez, dans deux jours, j'ai un match très important en demi-finale. Ma première ici à Roland-Garros. Pour l'instant, je me concentre là-dessus. Mais oui, très heureux vraiment d'avoir ce numéro désormais.
Voilà, donc Yannick Sinner, votre nouveau numéro 1 mondial, quoi qu'il arrive, dès lundi. On parle de football maintenant. Match amical entre la France et le Luxembourg. Victoire des Français 3-0. Un bon match selon Didier Deschamps. On l'écoute.
On va pas s'enflammer non plus, mais il y a des choses intéressantes, il y a des choses que je serais amené un peu à corriger forcément. C'est du positionnement un petit peu, mais dans l'animation offensive, on a eu beaucoup de variété, avec beaucoup de mobilité, avec des zones qui sont occupées, pas toujours par les mêmes joueurs, mais... L'important, c'est quand on n'a pas le ballon, qu'il y ait un joueur dans chaque zone.
Voilà, donc Didier Deschamps sur ce match 3-0. Alors, où est l'intérêt d'avoir des matchs amicaux avant l'Euro qui arrive donc à grands pas au fin du mois de juin? Les explications, une nouvelle fois, de Didier Deschamps.
De répétition, ça ne donne pas de garantie. Après, on est là pour faire en sorte de répéter par rapport à une première phase où on a fait une charge de travail importante, mais pas non plus démesurée. Ça a été calculé. Et après, chaque équipe, par rapport à son premier match, chaque sélectionneur avait... Voilà, de faire... Il y en a qui ont déjà joué des matchs amicaux hier. On ne rentre pas tous en même temps dans la compétition. Mais à travers les deux matchs, de répéter avec l'ensemble du groupe.
Didier Deschamps, le sélectionneur français. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Allez, comme chaque semaine, on va parler d'économie avec notre spécialiste sur la question, Nicolas Purpich. Bonjour Nicolas.
Bonjour Christophe.
Et cette semaine, vous nous parlez du salaire minimum qui, belle surprise, va monter après une décision de l'arbitre industriel, on le connaît sous le nom de la Fair Work Commission.
Voilà, donc la Fair Work Commission a décidé que, en fait, le salaire minimum va monter par 3,75% à partir du 1er juillet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va toucher à peu près 2,6 millions de travailleurs autour de l'Australie. Donc une grande proportion de la population et des gens qui travaillent, à peu près un 20%. Et donc ça, c'est l'équivalent de 24,10 € par l'heure que les gens doivent être payés au minimum. Donc 915,91 $ par semaine. C'est toujours pas beaucoup, mais ça c'est le minimum qui est obligé d'être payé ici en Australie. Donc c'est à peu près la même, le 3,75%, c'est à peu près la même chose que les salaires montent en général en 2024. Donc c'est à peu près le même, c'est pas plus, c'est pas moins.
Ça arrive pas forcément tous les ans, donc c'est aussi important de le noter.
Oui, voilà. Ça arrive pas tous les ans. Et ce qui se passe tous les ans aussi, c'est que les syndicats demandent beaucoup plus et les organisations qui représentent les business, etc., demandent beaucoup moins. Donc, par exemple, cette fois, les syndicats avaient demandé 5%. Et l'Australian Commerce of Chamber and Industry avait demandé 2,2% à peu près, d'entre 2 et 2,8%. Donc voilà, c'est à peu près entre les deux. Et le gouvernement avait demandé quelque chose qui n'était pas plus que le taux d'inflation, parce que tout ça, bien sûr, ça joue là-dedans. La lutte contre l'inflation, qui on aimerait le voir entre 2 et 3%. Et selon la Fair Work Commission, si on augmente les salaires par 3,75%, ça ne va pas trop augmenter l'inflation non plus. Et on va pouvoir continuer à essayer de faire baisser le taux d'inflation. Mais bon, entre-temps, pour les gens, un peu plus d'argent, ça va aider à payer la nourriture, les factures, etc., qui, bien sûr, continuent à monter plus vite que les 3,75%.
Ouais, on en a beaucoup parlé, hein, ce cercle vicieux depuis plusieurs mois dans notre rubrique. Allez, on parle maintenant de la compagnie minière Rio Tinto qui là propose. Alors, vous allez nous éclairer un petit peu là-dessus parce que à lire la ligne, c'est quand même un peu, je vais pas dire choquant, mais c'est un petit peu. On se pose des questions quand même sur une façon plus écologique de fabriquer du fer.
Oui, c'est vraiment intéressant en fait parce que le fer, la fabrication du fer autour du monde, ça compte 8% de tous les émissions à effet de serre qui sont produits autour du monde. 8%, donc c'est énorme. En fait, entre 8 et 10%. Donc ça forme une énorme contribution à la pollution et le changement climatique du monde. Donc c'est un vrai problème. Et depuis plusieurs années, maintenant assez longtemps, il y a des recherches pour trouver des façons pour créer du fer d'une façon plus écolo. Ils appellent ça du green steel. Donc, il y a des propos pour le faire avec de l'hydrogène, par exemple. Mais là, donc, Rio Tinto propose une autre façon. C'est de le faire en utilisant de la paille et de l'énergie pour chauffer qui vient de l'énergie du micro-ondes. Donc pour expliquer ça un petit peu, quand on creuse du minerai de fer ici en Australie, pour le convertir en fer, il faut d'abord le convertir juste en fer. Donc ça veut dire qu'il faut enlever l'oxygène qui est dans le minerai de fer. Et pour enlever cet oxygène, il faut le chauffer. Et donc, d'habitude, c'est fait avec du charbon. Et donc, tu chauffes le minerai de fer avec du charbon et l'oxygène part. Et en même temps, bien sûr, ça crée la pollution du carbone dioxyde. Donc, ça, c'est un énorme problème. Donc, ce qu'ils proposent de faire là, et ils ont fait des essais en laboratoire, c'est que tu chauffes le minerai de fer avec de la paille. Mais tu chauffes la paille avec de l'énergie de micro-ondes. Donc, comme si on fait comme ça, il y a à peu près 95% moins de pollution qui est créée, ce qui est énorme. Parce que si on regarde juste une compagnie comme Rio Tinto, eux, ils produisent à peu près 330 millions de tonnes de minerai de fer chaque année. Et donc, ça fait une énorme quantité de pollution, bien sûr. Et donc, ils ont testé ce processus dans les laboratoires. Et maintenant, ils proposent de le faire à une échelle plus grande, plus élevée. Mais donc c'est une très bonne idée et j'ai parlé avec d'autres scientifiques, d'autres professeurs dans ces domaines qui m'ont dit oui la science est bonne, on peut faire ça, mais le problème, le vrai défi, c'est de le faire à la grande échelle. On peut le faire dans un laboratoire, mais de le faire avec 330 millions de tonnes de minerai de fer juste pour une compagnie, il faut une quantité énorme de paille. Donc, oui. Il faut beaucoup de micro-ondes. Donc, il y a un vrai défi, c'est l'échelle industrielle. C'est ça le défi. Et donc, c'est ça qui va être travaillé maintenant. Et pour le moment, c'est quelque chose qui n'a pas... Il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de problèmes à résoudre, mais c'est faisable. C'est très intéressant.
Ça peut être une pierre à l'édifice d'autres choses. Dès qu'on commence à penser différemment, on peut réfléchir et trouver d'autres solutions ailleurs. La paille, c'est peut-être juste un passage vers d'autres nouvelles solutions.
Voilà, c'est juste la paille, c'est ce qu'on utilise pour chauffer le minerai de fer. On pourrait utiliser quelque chose d'autre. Donc, c'est pas obligé d'être de la paille. Mais ce qui est bien avec la paille, c'est que on pousse tellement de blé et d'autres produits agricoles en Australie que après qu'on fait la récolte, il y a toujours de la paille qui reste. Donc c'est quelque chose qu'on en a beaucoup ici en Australie, mais il en faudrait des quantités énormes pour faire ça. Donc c'est un peu ça le problème. C'est pour ça qu'ils regardent aussi des manières de faire ça en chauffant avec de l'hydrogène ou d'autres gaz ou d'autres produits. Mais au moins ils cherchent des solutions, au moins ils réfléchissent, parce que si on pouvait réduire ce 8% de pollution créée par la fabrication de métal, ça serait vraiment quelque chose qui pourrait vraiment contribuer à la lutte contre le changement climatique. L'autre problème pour des compagnies, c'est que ça coûte beaucoup plus cher de le faire de cette façon-là.
Tout a un coût.
Voilà, tout a un coût. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, ça, c'est un vrai problème aussi. Mais ça va réduire. Le prix va réduire. Si on a de plus en plus de green metal, le prix sera plus haut au début, puis ça va baisser. Donc c'est un début, c'est intéressant.
Absolument. Merci Nicolas d'avoir décrypté l'actualité économique pour nous cette semaine.
Merci Christophe.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
13h34 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Et pour marquer le 6 juin 1944, jour du débarquement en Normandie, il y a 80 ans, on vous propose depuis nos archives des extraits des interviews des soldats de l'époque. En 1995, à l'occasion des 50 ans du débarquement, notre ancienne collègue Daniel Kemp recevait dans les studios de SBS Tony Gaze. Écoutez.
Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
J'ai le plaisir d'accueillir dans nos studios Tony Gaze. Tony Gaze, qui a une histoire tout à fait différente à nous raconter. Tony, welcome.
Thank you.
Tony, you were at the landing and yet you weren't meant to be at the landing.
No, I feel a bit of a fraud on this program because officially I never went there. It's a bit of a long story. Shall I start at the beginning of it?
Yes, let's do that.
Well, in September 43, I was shot down in France. Well, I got myself shot down. I tried to fight with 6 Fokker Wolfs and the Spitfire 5, which was a bit inevitable. And I shot one of them down, and I may have got another one who flicked in the fight, and very low down he may have crashed. But anyway, eventually they hit me in the radiator just when I was getting to the coast near the Tréport, and I was over a big forest. And there was nowhere to land except a little clearing, so I stuck the Spitfire in there, and it slid to the end, and unfortunately I had my top straps undone, which you do in a, well, unlocked anyway, which you do in a fight so that you can lean forward and see behind you, and I pushed my face through the gun sight, which made a mess of my face, so that when the resistance found me, they had to hide me for 3 weeks until I'd healed up enough to start escaping. And I went to Rouen, then Paris, and then down to the Pyrenees, over the Pyrenees, and to Spain and Gibraltar, and got back. And all that took 2 months, and then I had to go to hospital to get my face fixed. And as a result, when D-Day was getting near, I was still medically unfit. And Fighter Command had sent me to the Air Fighting Development Unit, which had sent me to 5 Group Bomber Command to practice attacks on the bombers ready for D-Day in old Spitfire 2s. And on the 5th, I was coming back from one of these attacks, and I saw people painting black and white stripes on the wings of bombers. And remembering the Dieppe raid, when we had the first Dieppe, which was cancelled, we all painted black and white stripes on our aircraft, but for the actual one that took place, we didn't. But I thought, hello, this must be D-Day. And a fortnight before, I'd rung up Wing Commander Johnson, who'd been with me in Douglas Bader's wing at the beginning of the war, and then we were both flight commanders in 616 Squadron, so we knew each other pretty well. And I said, look, it's getting near D-Day. Can I come down and have a practice with your boys? And so I did. And I flew with 441 Squadron of the Canadian Air Force with Johnny Johnson on a sweep round Paris just to get my hand in. And he said, right, when the balloon goes up, you can come and we'll sneak you in somewhere. So I thought, well, D-Day's tomorrow. And I imagined that that Germans would react tremendously with intruder operations against our bomber stations, because their intelligence must have told them that all our fighters were on the south coast. So I thought, well, we might be in some fun up here. So I got all our Spitfires armed up, and we waited in the, as all the bombers returned in the morning, because they were streaming out all night, and nothing happened, and nothing happened. And when eventually it was obvious that nothing was going to happen, I snuck off in an old Spitfire 2 to go down to Tangmere, where Johnny Johnson's wing was supposed to be. And when I got there, there was no one there, so I flew out over the channel for 40 minutes and joined all these aircraft buzzing around. And eventually I realized that I was getting some dirty looks, because I was the only Spitfire in the sky without black and white stripes on. And I could have been a German spy or something, so I thought, well, I better get out of here. And I went back, landed at Tangmere, and Johnny Johnson's wing wasn't there. They said, oh, they've gone to Ford, which was a naval air base a bit further along the coast. So I went there, and they were all very disappointed. They'd seen virtually nothing. We thought it was going to be like Dieppe with a tremendous battle from the Luftwaffe, but virtually nothing had happened. And they said, well, the weather's terrible. Hang on, and we'll fit you in on the first big show. So I stayed there with them, and Ford was pretty eventful place because there were all sorts of dramas going on. One was that Stirling had engine trouble and let its glider go, and the glider landed in the middle of the airfield, and all the fellas came out with guns roaring, thinking they were in France, which caused a bit of a palaver. And then in the middle of the night, there was an enormous explosion and lots of gunfire, and we thought, gosh, we're being raided by the Germans. And it was a mosquito that had swerved off the runway and gone into a long line of Spitfires, and they'd all caught fire, and it was all the guns going off. So even though the weather was very bad, we were kept fairly busy. And then eventually, a couple of days later, Johnny said, right, well, we're going to land in France. They've finished an airstrip just inland from the coast, between the coast and Caen, and you're coming with us. And we go and we do a show escorting some bombers to bomb around Paris, and then we'll come back and refuel, and then we'll go back and do another escort. And we were all briefed for it. And then just as we were taxiing out, I was told that one of the Canadian pilots, because it was a Canadian squadron, and I wasn't supposed to be there. I mean, the Canadian Air Force owned the airplanes. And they said, well, look, one of the fellows has burst a tire. You hang back and then bring him over later and land and then join up for the second show. So when they changed his tire, I took him over and we flew up and down the coast, pretty scared because there were only two of us. And I thought, well, golly, you know, if the Luftwaffe appears in numbers, we'll be in trouble. But nothing happened. I mean, we stayed over the fleet for a bit, and for once the Navy didn't shoot at us. And then we went inland, and the Germans did, so we snuck back and flew up and down in between the two, like watching the battle, which was intriguing because we could see all the tracer and everything going off and explosions, and our tanks getting a terrible hammering from the Panzers because, you know, the Tiger tank could outshoot anything we'd got. And then we heard our wing coming back, and I looked down at this airfield, and there it was, all dirt. And I thought, golly, if we go in last, the whole place will be crowded with dirt and mud, and God knows what, I'm going to nick in first. So I went in first, landed with my number two, the Canadian, and taxied to the end, did all I was supposed to do, and stopped for refuel, and I was immediately surrounded by the Canadian press to congratulate the first man to land in France to refuel on a normal operation. I mean, people had landed in trouble before. And, of course, I wasn't a Canadian, I was an Australian, and it rather spoilt the whole thing.
Je parle à Tony Guest. Tony Guest, qui est un Australien qui a participé au débarquement au jour J de la Seconde Guerre mondiale, qui ne devait pas être... qui ne devait pas faire partie de ces contingents du débarquement, mais qui s'est retrouvé presque par un concours de circonstances incontrôlables, justement en Normandie et survolant la Manche pendant cette période. Nous allons prendre une petite pause musicale. Je parle à Tony Guest. Tony Guest, qui est un des vétérans qui a participé au débarquement en Normandie et qui était australien, qui n'appartenait pas à une unité de combat à ce moment-là et qui s'est retrouvé, presque malgré lui ou par un concours de circonstances qu'il est en train de nous expliquer, justement faisant partie de ces pilotes de guerre, de chasse, qui protégeaient les bateaux qui partaient en Normandie. Tony, you mentioned that you arrived there. You were the Australian, the first man to land in France and to refuel in France, and you weren't a Canadian. So what happened then?
Well, I kept out of the way, and I realized that I could have got Wing Commander Johnson into a lot of trouble because I shouldn't have been there, and I was medically unfit anyway, officially, and... I was flying an aircraft provided by the Canadians, but the Canadians really didn't mind. I'd met a lot of them, because I was on my third tour of operation, so I'd met most fighter pilots. And anyway, all was going fairly well, and I was talking to the air defence people, and they said, do you want to go on a sniper hunt?
Whoa, you were the only one left of your squadron.
Oh, no, the only one of two left. Yes, no, at the end of the war, I spent the last week of the war on jets, on meteors, and we had to be as far forward as possible because they had no range to speak of. And we ended the war at Lübeck, and we moved into the palatial German mess there, and even the German staff stayed and looked after us and cooked for us. And
it would have been an extremely odd situation.
It was. And anyway, as a squadron leader, I had a palatial outfit of rooms and bathroom, and which we never have in our messes in the Air Force, and my own phone, and it rang one day, and a fellow said, my name's Durrant, do you remember me? And I said, oh, yes, we were together in 5 FTS, where we learnt to fly. And he said, well, I'm now at Fighter Command, and I have access to all the records. And I've just looked up all the people on our course, and I'm going to phone them. And I said, well, who have you got? And he said, you. That's it.
You were the only one left
of the 50
that course.
In our course. I mean, they weren't necessarily all dead. They could have been invalided out. But as far as the Air Force was concerned, there were only two of us still on active service.
The Battle of England was a very costly one, wasn't it, in terms of men?
The first squadron I went into was 610 Squadron, which was the City of Chester Auxiliary Squadron. And with Dunkirk and the Battle of Britain, they were virtually wiped out. There were virtually no auxiliaries, you know, sort of peacetime people left. All the ground crews and things who'd been giving up their weekends for years to service the aircraft were there. And it made it... Well, I was in quite two auxiliary squadrons, and they were both magnificent squadrons to be with because the ground crew... were really keen. They'd given up their weekends in peacetime, and in wartime they would refuse promotion because it would mean them leaving the squadron, and there was a terrific squadron spirit.
Mon invité aujourd'hui a été Tony Guest. Tony Guest, qui est un des vétérans et un des héros de la Seconde Guerre mondiale, qui nous a parlé du débarquement du point de vue aérien.
Eh bien, on continue avec nos archives de l'époque, et moi-même, j'ai eu l'occasion de parler à deux soldats mauriciens, Maurice Rowe et Maurice Patureau, qui étaient présents lors du débarquement des troupes alliées en Normandie.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio, du lundi au vendredi, à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
En 2004, j'ai eu l'occasion d'interviewer Sir Maurice Rowe, ancien chef juge de Maurice, qui en 1939 s'est enrôlé comme navigateur au sein de la Royal Air Force. Que faisait-il le 6 juin 1944 ? Écoutez.
Si vous voulez le savoir, j'ai lancé des confettis dans la figure des Allemands. C'est pas une blague.
Oui.
Pour cacher les objectifs véritables, la RAF lançait de petits groupes de bombardiers qui ne transportaient que des lamelles de papier métallisé qu'ils déversaient dans l'air, comme ces lamelles faisaient sur les écrans de radar les mêmes échos qu'une flotte puissante de bombardiers. La DCA allemande mobilisait les chasseurs décollés pour intercepter l'agresseur, mais elle ne trouvait dans le ciel vide que des confettis à combattre. Car aussitôt après, nous faisions demi-tour et rentrions à toute vitesse en Angleterre.
Alors, rappelez-nous un petit peu encore votre parcours comme navigateur au sein de la RAF.
Écoutez, j'ai pas fait grand-chose, vraiment. J'ai été un très modeste navigateur, d'abord à la 103e escadrille de bombardement lourd, et vers la fin de la guerre, à la 582e escadrille des Pathfinders.
Sir Maurice, qu'est-ce qui a emmené un jeune Mauricien comme vous à cette époque des années 40 à se retrouver au sein de l'armée britannique ?
J'étais attiré naturellement par l'auréole de la RAF dans l'énorme débâcle Elle était la nouvelle chevalerie qui sauvait l'honneur des hommes. Mais j'avais bien d'autres mobiles. Je fus poussé à la fois par la curiosité de voir la guerre de près, le désir d'éprouver mes muscles au feu, l'âpre délice de voltiger sans filet, la volonté très consciente de soigner ma biographie, même au risque de l'abréger. Mais pourquoi en avoir honte? Il y avait aussi une raison désintéressée. Et cette raison s'appelait la France. Cela me gênait de lire Corneille ou Peggy pendant que les Fritz remontaient les Champs-Élysées au pas de loi. Je voulais donner, moi aussi, un coup de main pour libérer Claudel et Valérie.
Saint-Maurice, vous êtes un des rares témoins de l'époque. Racontez un peu les missions de la RAF effectuées en Allemagne pour mettre fin rapidement à cette guerre.
Je crois que la RAF a joué un rôle décisif par les destructions qui ont ralenti les productions allemandes et surtout parce qu'elle a causé un retard d'un an sur les armes nouvelles que les Allemands mettaient fiévreusement au point. Je ne parle pas des V1 et des V2. Hein, elles n'ont joué qu'un rôle marginal. Mais tout change lorsqu'on arrive au Messerschmitt 262, qui fut le premier avion à réaction. Il surclassait tellement tout ce que nous pouvions lui opposer que si, au jour J, les Allemands avaient eu 1000 appareils de cette classe, alors le débarquement, fini, terminé, kaput. Pour deux raisons. D'abord, il aurait eu un massacre irréparable sur les plages. Mais deuxièmement, et surtout, le débarquement a réussi parce que par toutes sortes de ruses mirobolantes, les Anglais ont persuadé les Allemands que la Normandie n'était qu'une diversion pour masquer le vrai débarquement qui aurait lieu dans le Pas-de-Calais. En conséquence, les blindés allemands attendirent sans bouger un ennemi qui ne viendrait jamais, car autrement ils auraient rejeté les Alliés à la mer. Mais cette ruse n'aurait trompé personne si le 262 existait, car il aurait pu se balader sans problème sur le Kent, et ses photos auraient montré que la soi-disant armée Patton n'existait pas et que ses tanks étaient en carton.
D'autres anecdotes de cette époque?
Je crois que nous avons battu les Allemands parce que nous savions rire mieux qu'eux. Non, par exemple, l'affaire d'Amiens. Les Allemands qui avaient poussé très loin lors du camouflage avaient construit près d'Amiens un faux aérodrome avec des avions en contreplaqué. Ayant éventé la ruse, des bombardiers légers de la RAF les arrosèrent copieusement avec des bombes en bois. Ne dites pas que c'était une opération inutile. Cela a fait beaucoup pour notre morale, parce que les hommes suivent toujours partout des hommes qui sont capables de ces superbes impertinences. Dernière anecdote.
Oui.
La seule fois où je fus témoin d'un exploit, mais en spectateur plutôt qu'en acteur, c'était en revenant d'une mission sur l'Allemagne. Notre bombardier fut atteint par un obus qui explosa dans l'aile. Et un éclat, dans une trajectoire bizarre, heurta mon pilote à la tempe, et par une série de coïncidences quasi miraculeuses, ne le tua pas. Mais il fut mis knock-out et il tomba sur le manche à balai. Et l'avion piqua follement vers le sol. Je croyais que c'était fini, mais mon pilote était un vrai dur. Au bout de quelques secondes, il reprit connaissance et nous dit « Ok boys, I got her ». La discipline sur l'interphone était très stricte. Je ne répondis rien, mais la côte anglaise franchie. Je ne pus me retenir. Je l'appelai et lui dis « Navigateur au pilote, mes excuses. Je croyais que tu avais la tête en bois. J'avoue qu'elle est en acier. »
Donc vous êtes rentré sain et sauf, heureusement.
Oui. Avec quelques trous dans l'aile.
Avec quelques trous dans l'aile. Saint-Maurice, quelle leçon tirez-vous de votre vie, disons la sagesse acquise après ces années 40, après ces années noires?
Je ne dirais pas que c'était une année noire, c'était plutôt une année rouge, d'un beau rouge vif. Et pendant la guerre, l'honneur nous commandait de cogner sur les nazis.
On
passe maintenant à Maurice Patureau, capitaine pendant la guerre. Il a participé aux opérations de Libye comme navigateur et puis avec le groupe Lorraine. En Angleterre, il a effectué des missions de bombardement contre les Allemands. Il a été fait compagnon de la libération par le général de Gaulle. Il a aussi écrit ce livre, Agent secret mauricien en France de 1940 à 1945. Que faisait-il le 6 juin 1944. Écoutez.
J'étais dans l'aviation parce que j'étais pilote civil avant la guerre, quoique avec peu d'expérience. Et j'ai fait mon service militaire et puis nous avons été démobilisés avec l'arrêt des hostilités en France. Et puis je suis parti pour l'Angleterre où je suis rentré détaché dans la Royal Air Force au squadron, à l'escadrille 342, groupe Lorraine. Et là j'ai fait la guerre comme navigateur dans des bombardiers légers, principalement des Blenheim et puis des Boston.
Parlez-nous du 6 juin 1944. Où étiez-vous et que faisiez-vous ce jour-là?
Notre mission ce jour-là, c'était de répandre un rideau de fumée devant une des plages de débarquement. Malheureusement, il y a eu un choix. Nous avions que 12 avions à fournir. Et je n'étais pas dans ces 12. Je suis donc resté en spectateur alors que mes condisciples faisaient le rideau de fumée qui a eu un grand succès du reste. Nous avons perdu un équipage, mais les 11 autres sont rentrés indemnes.
Monsieur Patureau, si nous parlions maintenant de votre livre « Les agents secrets mauriciens en France 40-45 », quel était tout d'abord le but d'écrire ce livre?
Il y avait trois objectifs principaux. Ne pas laisser tomber dans l'oubli les actions d'éclat d'un certain nombre de Mauriciens pendant la guerre 39-45. Et je pensais que le 50e anniversaire de la fin de cette guerre était une bonne occasion pour éditer ce mémorial. Ça, c'était un des objectifs. Le deuxième, c'était de faire comprendre que via les services secrets, un très petit nombre d'agents pouvaient opérer des destructions considérables avec des résultats tactiques extrêmement importants. Finalement, il fallait retracer sommairement les principaux réseaux ayant été sous le commandement de Mauricien pendant la période 41-45. Et dans le livre, il existe une carte où on voit le nombre de réseaux mauriciens qui n'est pas négligeable comparé au nombre de réseaux total érigés en France.
Parlons un peu de ces agents secrets mauriciens travaillant pour la France. Quelles ont été un peu leurs contributions à la libération? Et là, je pense aux missions effectuées, car il ne faut pas oublier la contribution de ces Mauriciennes, qui étaient elles aussi des agents de la France.
Et nous avons eu 14 principaux agents, ce qui est un nombre très fort comparé à la population de Maurice. Hein.
Oui.
Mais nous étions bien, au départ même, nous avions une meilleure chance, parce qu'on parlait bien et le français et l'anglais. Ce qui nous donnait un avantage sur beaucoup d'autres agents qui opéraient en France. Oui. Venant de l'Angleterre. Et alors, dans ces 14, je vous cite les noms de ceux qui ont le plus marqué notre épopée. Il y a Anterne d'abord. Lui, c'était le grand conseiller et coordonnateur. Et puis, il y avait Bessac. C'était le grand baroudeur, en équipe avec sa sœur, du reste.
Oui.
Et puis, Duclos, qui était le Benjamin. Alix Dunienville, l'indestructible, qui a été dans plusieurs camps de concentration et puis en est revenu. Jean et Maurice Larcher, les deux durs, Mingard, le chevalier, les trois frères mères, la terreur des Allemands, Delaroche, la liaison avec les Américains, Clarenc, le martyr des camps de concentration. Voilà les noms des principaux qui ont été SOE pendant la guerre, c'est-à-dire agents secrets, et qui se sont excellemment bien conduits. Je dois mentionner également que nous avions des Mauriciens dans la SAS, Special Air Services, et des parachutistes.
Oui.
Je crois qu'on vous a déjà parlé des actions de Raymond Rowe, auxquelles il faut ajouter ceux de Hyacinthe Vier et de Yves Quentin. À peu près en résumé très succinct, ce qu'on essaye de développer dans le livre pour que la mémoire de ces officiers reste parmi les générations à venir.
Et voilà, fin de l'émission de ce 6 juin. Merci d'avoir été avec nous. Et vous pouvez retrouver toutes ces interviews sur notre site sbs.com.au/french. À très bientôt sur SBS en français.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.